La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous et bienvenue à vous pour poursuivre avec moi notre cheminement artistique en compagnie des femmes artistes créatrices. Nous avons entamé le XXe siècle en compagnie des expressionnistes allemandes puis des surréalistes et ce fut encore des destins de femmes, des parcours riches en créativité, contrastés en événements. Alors comme à quasiment chaque émission, une musicienne que nous avons pu écouter était à l'honneur et il s'agissait cette émission précédente de Mel Bonis. Quant à la dernière artiste peintre évoquée, elle se nommait Leonora Carrington et c'était une surréaliste qui l'a échappé belle car elle aurait pu mal tourner et ça en aurait été fini de sa carrière d'artiste riche et réussie. Alors nous l'avons quittée au Mexique où elle s'était réfugiée et nous allons rester un petit peu dans ce pays car lorsque j'ai retracé le destin de Leonora Carrington, j'ai remarqué qu'elle avait croisé celui d'une artiste surréaliste espagnole elle aussi réfugiée au Mexique, nommée Remedios Varo, qui deviendra son amie. Alors, Maria de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga, rien que cela, dit Remedios Varo, est plus jeune de 9 ans que Leonora Carrington, puisqu'elle est née en 1908. Alors, qui est cette artiste? Alors, c'est une peintre née en Espagne, d'origine catalane, ayant beaucoup bougé dans son enfance à cause du métier de son père, un ingénieur hydraulique, et qui a pu entamer des études artistiques à Madrid lorsque sa famille s'est fixée. Alors, ce seront d'abord des études à l'École des Arts et Métiers, puis ensuite à l'Académie Royale de San Fernand, où elle profitera d'un apprentissage artistique académique solide. À 20 ans, elle épousera un peintre nommé Gerardo Lizarraga, pour partir avec lui à Paris. Or, j'ai pas trop d'informations, mais on peut supposer qu'ils s'immergeront dans la communauté artistique parisienne, comme tant d'autres à cette époque. À leur séparation, elle viendra à Barcelone pour s'installer avec un autre peintre, le surréaliste Esteban Frances. Ensuite, elle rencontrera son nouveau mari, un poète français, là encore un surréaliste nommé Benjamin Perret, en se mêlant à une organisation de promotion de l'art d'avant-garde. Alors, je parle beaucoup des amis et des maris de la dame, mais si vous écoutez, ce sont des artistes, certains en lien avec le surréalisme, ce qui veut dire qu'elle est vraiment immergée, même au travers de sa vie amoureuse et maritale, dans l'art et le surréalisme, ce qui peut en partie justifier que ses propres élans créatifs aient pris cette orientation plus précise. Alors avec la guerre civile espagnole qui éclate, elle part en France en 1937 et c'est à ce moment qu'elle se mêlera davantage au groupe des surréalistes constitué par André Breton, Max Ernst entre autres, et qu'elle fera la connaissance de Leonora Carrington, citée l'émission d'avant et qui deviendra une amie. Alors en France, elle participera à des expositions, notamment à l'exposition internationale du surréalisme en 1938. Entre-temps, le Mexique, à ces époques troublées, offrant l'asile aux réfugiés espagnols, elle s'y installera comme d'autres, dont des surréalistes, pour y retrouver son amie Leonora. Et sur place, elle exercera surtout des emplois alimentaires, mais quand même en lien avec l'artistique, hein, c'est-à-dire peindre des décors sur des meubles, dessiner des illustrations publicitaires, créer des costumes de théâtre, etc. Alors, séparée de Benjamin Perret, elle se mariera ensuite avec l'une de ses anciennes connaissances, devenue veuf, un Autrichien nommé Walter Gruen, qui, riche homme d'affaires, la soutiendra matériellement, affectivement aussi possiblement, puisqu'il l'encouragera à reprendre sa peinture pour s'y consacrer pleinement, et ce qu'elle fera pour trouver une voie plus personnelle. Si bien qu'elle exposera la première fois au Mexique en 1955 et ensuite sera organisée sa première exposition personnelle où elle obtiendra tant de succès qu'elle pourra dorénavant vivre de sa peinture. Mais malheureusement, elle décédera prématurément à 54 ans d'un infarctus. Bon, malgré tout, elle aura produit une œuvre abondante. Alors évidemment, j'ai cherché ses productions. Il est vrai qu'elle propose un monde onirique peuplé de créatures parfois familières, mais surtout singulières, évoluant dans des ambiances et des décors aussi étranges parfois. Et dans ces toiles, j'en ai retenu quelques-unes dans ma mémoire, dont une qui sans doute m'a marqué un peu plus, qui représente un personnage masculin en noir. Et c'est son ombre projetée qui, elle, donne la couleur. Et de son dernier tableau peint en 1963, intitulé « Nature morte ressuscitante », elle nous propose une table dressée, composée de fruits, emportée dans un tourbillon ascendant. Voilà ce que je peux dire pour Remedios Varo, hein, que je trouve quand même assez proche de Leonora Carrington, avec qui, je crois, elle s'entendait assez bien pour chercher matière à création dans le monde de l'ésotérisme. Et il semble que cette dernière, et je l'ai mentionné dans l'émission précédente, se serait intéressée au livre des morts tibétains, qui correspond à une possible libération de l'obligation pour l'être humain de renaître et ainsi sortir de ce cycle infernal de renaissances successives que les Tibétains nomment le samsara. C'est justement une parfaite introduction pour vous présenter une compositrice française née en 1910, nommée Elsa Barène, qui a composé une musique aux sonorités particulières, un peu inquiétante, du moins le passage que je vais vous faire écouter, et intitulée « Les démons », sortie d'une musique rituelle, et elle serait en lien avec le livre des morts tibétains. Alors, cette musique a été composée en 1967, hein, plus tardivement, mais peu importe, nous allons l'écouter. Mais auparavant, voyons de plus près qui est Elsa Barène. Alors, elle est fille de musicien, puisque son père était violoncelliste soliste à l'orchestre de l'opéra. Sa mère également aime la musique et, outre le chant, elle pratique en amateur aussi le piano. Nous pouvons dire que Elsa Barène baigne dans une ambiance propice à la musique, si bien qu'elle rentrera très tôt au conservatoire. Bon, elle sera par la suite l'élève de compositeurs connus, reconnus. Je citerai Charles-Marie Vidor, un compositeur pour orgue, et aussi Paul Dukas, qui est l'un des plus célèbres et aussi connus pour être un professeur exigeant. Alors, j'ai tendance à penser que c'est une qualité pour progresser, s'améliorer, et la récompense est la production d'un travail de qualité, hein, qui peut ouvrir des voies sur le futur. Apparemment, il semble que ce fut le cas pour Elsa Barène, qui se sentait proche de ce professeur. Je crois même qu'il est devenu par la suite son ami, et celui-ci l'a certainement guidée avec bienveillance, mais néanmoins rigueur. En tout cas, à 19 ans, en 1929, elle obtiendra le premier Grand Prix de Rome pour sa cantate intitulée « La Vierge guerrière » qui retrace l'épopée de Jeanne d'Arc et est tirée d'un poème d'Armand Fouché. Et je crois qu'elle sera la quatrième femme à obtenir ce prix, la première étant Lili Boulanger. Enfin, globalement, elle poursuivra une carrière fructueuse à tout point de vue. Elle occupera en outre des postes à responsabilité comme celui de chef de chant de l'Orchestre national de la radiodiffusion qui, comme l'Orchestre philharmonique de Radio France, est l'une des formations affectées à la radio. Et elle sera également directrice d'une maison d'édition de musique, Le Chant du Monde. Alors en dehors de ces postes, elle enseignera également au Conservatoire national supérieur de Paris. Bon, elle était également ce qui s'appelle une artiste engagée, politiquement, humainement, et je vais vous lire ce qui a été écrit sur elle d'après un document réalisé par la Bibliothèque nationale de France. Alors, c'est une personne nommée Elisabeth Giuliani qui écrit, et je vous le lis, que c'est donc une compositrice non conformiste, enseignante originale, active dans les médias et citoyenne engagée, en relation permanente avec les artistes, les intellectuels et les événements de son temps, curieuse de spiritualité orientale notamment. Et en effet, d'après ce que j'ai pu lire sur elle, elle s'intéressait de près à la spiritualité, comme par exemple la Bhagavad Gita ou Bhagavad Gita, terme sanskrit qui signifie « chant du bienheureux » dans laquelle la mythologie hindoue s'exprime et se déploie. et aussi au travers de récits où se mêlent le dieu Krishna et le prince guerrier Arjuna, il est aussi question de sortir du cycle infernal des renaissances et des incarnations. Et la ligne de conduite qui est proposée, ben c'est un travail sur soi pour arriver à se libérer de la tyrannie de l'ego, de la soumission aux puissances et aux possessions, pour enfin acquérir maîtrise de soi, mesure et détachement, qui sont encore les meilleurs moyens de lutter contre toutes les souffrances nées des conflits et des guerres qui empoisonnent la terre. Bon, voilà grosso modo résumé. Le contenu de ce livre. Donc toutes ces spiritualités reprennent sous des formes différentes la même philosophie de base, qu'elle soit orientale ou occidentale, si bien qu'avec toutes ces lectures et méditations sur ces sujets, nous pouvons supposer qu'Elsa Baren en a tiré quelques sources d'inspiration musicale et peut-être aussi une certaine philosophie de vie, et même voir une ligne de conduite. D'ailleurs, trois esquisses symphoniques s'inspirent d'un poème de Tagore, le grand spiritualiste indien, musicien, écrivain, entre autres, une figure forte de la culture indienne qui, je l'avoue, m'avait moi-même interpellée à une époque. En tout cas, il a fallu les événements de la guerre civile espagnole, l'approche de la guerre 39-40, pour que ses intérêts dans la vie prennent une coloration plus politique, puisqu'après les accords de Munich avec le démantèlement de la Tchécoslovaquie et l'annexion des minorités à l'Allemagne, elle adhérera au Parti communiste français en 1938 et à son idéal d'équité et de justice sociale. Alors, je pense ici à Simone Signoret et Yves Montand, qui sincèrement, certainement, avaient adhéré et milité activement pour ces valeurs, mais qui ont été confrontés à une autre réalité déstabilisante dans les années 50-60. Bon, ne nous égarons pas et revenons à Elsa Baren, qui aurait participé aussi à des manifestations de soutien à l'Espagne républicaine. Et bon nombre de musiciens, comme d'autres artistes d'ailleurs, s'engageaient et prenaient parti socialement, politiquement, pendant ces périodes troubles ou troublées des années 30 de l'avant-guerre. D'ailleurs, Elsa Baren vivra une période difficile de survie pendant la guerre, d'autant plus que la judéité de son père ferme les portes à celui-ci de l'Opéra de Paris. Alors, c'est une période sombre pour tous, mais d'autant plus pour ceux qui ne rentraient pas dans les moules de l'époque. Alors, elle adhérera d'ailleurs au Front National des Musiciens, initié par le Parti communiste français, et militera au sein de ce groupe afin qu'aucune collaboration musicale ne s'effectue avec l'ennemi allemand. Et ses inspirations créatives suivront également le cours de l'histoire. Par exemple, Pogrom, créé en 1933, lié à ses inquiétudes face à la montée du nazisme, ou Voïna, créé en 1938, qui inaugure l'arrivée de la guerre, ou encore son Khoï et le fleuve rouge, en référence à l'Indochine et à sa lutte pour l'indépendance. Or, l'après-guerre et l'espoir qui renaît l'amèneront à quitter les frontières françaises pour voir ce qui se passe ailleurs, à l'étranger, notamment dans les pays de l'Est, la Pologne entre autres. Et là, elle note combien la créativité y est riche, et surtout en URSS. Alors la Chine l'attire également, puisque dans les années 80, elle s'y rendra et apprendra le chinois. Entre-temps, elle aura d'ailleurs appris le russe, qui lui servira à traduire un ouvrage sur la musique de Stravinsky. Son objectif, qu'elle ne semble pas perdre de vue, c'est que la culture, l'accès à l'art et à la musique est pour tous, quelle que soit la condition économique, sociale, raciale des personnes. Par la suite, elle s'investira dans l'association créée en 1932 par la CGT, la Fédération Musicale Populaire, afin de donner accès à l'apprentissage de la musique aux populations d'ouvriers. En 1948, Elsa fondera avec ses autres camarades musiciens l'Association française des musiciens progressistes, dont la philosophie est de promouvoir les principes du réalisme socialiste en musique. Et dans ses relations avec ses élèves, j'ai noté qu'elle est décrite comme quelqu'un de passionné, qui s'intéressait sincèrement à déceler chez ses élèves, quelles que soient leurs origines sociales ou autres, des capacités de musicien afin de faire éclore les talents, et elle s'attachait à bien faire prendre conscience du rôle social et humaniste que détient la musique. Alors elle s'investira dans des causes humaines toute sa vie, composera de nombreuses musiques, des compositions orchestrales, des symphonies, des musiques de scène, des musiques de chambre, des cantates, illustrera des poèmes et notamment ceux de Paul Éluard, et même des musiques de films. Bref, c'est une vie pleine et constructive, et elle décédera à l'âge respectable de 90 ans, en 1999, en laissant derrière elle l'image d'une femme éprise d'humanisme, de liberté et d'équité. Et maintenant, j'ai assez parlé, je vais réveiller Laylan. Place à la musique, celle d'Elsa Baeren, cette fameuse musique rituelle intitulée « Ici les démons », créée en 1967, une pièce étrange, insolite pour orgue, xylophone et tam-tam.
Thank you.
Bien, ben sortons de cet étrange climat pour revenir avec nos peintres. En fouinant comme d'habitude à la recherche d'artistes, j'ai rencontré encore une surréaliste peintre américaine nommée Kay Sage, née en 1898, qui elle aussi se mêlera au cénacle parisien des surréalistes pour une peinture qui propose davantage de formes géométriques. Alors, c'est une artiste qui est restée dans l'ombre, peu connue en France. Elle était surtout connue pour être l'épouse du peintre surréaliste américain Yves Tanguy. Et pourtant, ses créations méritent qu'on s'y intéresse, et elle aussi en tant que personnalité atypique. Alors, ce que j'ai découvert sur elle, eh bien, il semblerait qu'elle fût une enfant surdouée, bien qu'étrange dans son comportement, et qui réussissait brillamment ses études et parlait, déjà à l'âge de 15 ans, couramment, bon, évidemment l'anglais, mais aussi le français et l'italien. Et elle aurait aussi manifesté très tôt des dispositions artistiques. Alors, elle est issue d'une famille riche, avec un père sénateur, homme d'affaires, mais où l'instabilité règne, voire une ambiance névrotique peu favorable à l'enfant, qui ne trouve pas sa place et s'enferme dans une espèce d'introversion. Alors, lorsque les parents divorcent, elle vivra avec sa mère, qui au fil du temps deviendra de plus en plus dépressive et addicte aux médicaments. Une ambiance évidemment toujours peu propice au développement d'une adolescente hein, qui néanmoins à l'âge de 13 ans commence à peindre à l'huile. Alors, le manque d'argent se faisant sentir, Kay trouvera, jeune fille, un travail de traductrice qui lui rapportera un bon salaire puisqu'elle subviendra aux besoins du foyer pendant que sa mère, elle, bah, s'enfonce de plus en plus dans l'alcool lié aux médicaments. Mais Kay Sage compte bien développer sa vie artistique et elle s'entête. Aussi, à l'âge de se marier, il semblerait qu'elle ait refusé les prétendants, prétextant que la vie maritale est incompatible avec la vie d'artiste qu'elle entendait mener dans l'avenir. Bon, je ne ferai pas de commentaires sur ce sujet. Elle suit son chemin et finira également par se séparer de sa mère. La famille se disloquera davantage, elle perdra aussi son père. Et pour entreprendre des formations artistiques, afin de se perfectionner dans la voie choisie, elle s'installera à Rome. Alors en Italie, elle tombe amoureuse. Le monsieur est un prince italien, ce qui n'est pas si simple, et crée quelques remous dans les familles, hein, qui sont peu favorables au mariage. Celui-ci se fera néanmoins en 1925, lorsqu'elle aura 27 ans. Il semblerait que pour la suite des événements de sa vie, elle se soit sentie prisonnière des mondanités et surtout, bah, elle ne pouvait plus peindre. Aussi, bah, finit-elle par se morfondre à la recherche d'un échappatoire. Et ce sont des rencontres qui lui permettront de renouer avec le monde artistique. Ce qui lui permettra de découvrir les surréalistes et aussi le peintre Giorgio de Chirico, ce qui sera pour elle, paraît-il, une révélation. Alors elle reprendra ses pinceaux et ses crayons pour peindre, mais aussi pour écrire, car elle était également écrivaine. Entre-temps, son mariage bat de l'aile et il dégénérera suffisamment pour que le divorce soit prononcé, car il paraît qu'elle aurait subi le viol conjugal et aurait été obligée même de se faire soigner par la suite pour des règlements du système nerveux. Ce qui ne l'empêche plus de créer, d'exposer, de partir à Paris pour s'enivrer de la vie artistique qu'elle y découvre. Elle exposera au Salon des Indépendants, sera remarquée par les surréalistes, dont son futur mari, l'artiste Yves Tanguy, et c'est le coup de foudre. Mais surtout sur le plan intellectuel et artistique, puisqu'ils vont ensuite cheminer ensemble pour s'établir tous les deux aux États-Unis, comme d'autres artistes surréalistes d'ailleurs à cette époque. Alors ce sera à ces moments qu'il est peut-être possible de dire que la vie pour elle va s'éclairer, car en effet tous les deux, unis par un même élan, progresseront artistiquement dans un environnement paisible, enfin en tout cas favorable pour eux. Et cela se poursuivra jusqu'au décès prématuré de Yves Tanguy, dû à une hémorragie cérébrale survenue en 1955, lorsque Kay avait 57 ans à cette époque. Alors à partir de ce moment, sa vie va changer, Tout d'abord, elle se consacrera à valoriser l'œuvre et la mémoire de son mari, mais en même temps, elle se repliera sur elle-même, fermant petit à petit sa maison et son atelier. Or, ces chats qu'elle adore, eux aussi, vont disparaître, et Kay, petit à petit, sombrera dans la dépression et finira par déclencher une douloureuse maladie. Bon, apparemment, elle est au bout du rouleau, à tout point de vue, car elle finira tragiquement son existence en mettant fin à ses jours à l'âge de 65 ans. Alors, ce que l'on sait d'elle vient de sa biographie qu'elle avait écrite et intitulée « China Eggs », qui est traduit par « Les œufs de porcelaine ». Et ceci dit, à part sa biographie, elle a aussi écrit des pièces de théâtre et laissé 5 volumes de poésie. Alors, son œuvre picturale, comme je vous l'ai dit, propose surtout des formes géométriques. Bon, j'ai oublié de mentionner qu'enfant, elle était forte en tête, en mathématiques. C'était quelqu'un de brillant. Et peut-être que dans un autre environnement, en étant un homme, elle aurait pu embrasser une carrière de mathématicienne, d'architecte, car elle en avait les capacités. Bon, là, je divague un peu avec mes suppositions qui n'engagent que moi. Elle est devenue peintre et de ce qui se dégage de sa production, c'est une sensation de froide solitude. Enfin, mais je vous engage encore une fois à découvrir cet artiste pour savoir ce que vous-même vous ressentez et ce que vous en pensez. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je n'en ai pas encore fini avec ces dames qui ont beaucoup à dire à travers ma voix. À bientôt donc et merci de votre écoute. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.